Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, cette émission où on vous parle de jeux vidéo, de consoles, de PC, de nouvelles générations, de présentations absolument mirifiques, captivantes de jeux qui ont lieu en cette période de non-E3 2020. Je suis Patrick Béja et je suis en vadrouille, donc si le son est de qualité un petit peu moins bonne, c'est pour ça. J'utilise un micro différent de celui que j'utilise d'habitude. Et je suis connecté par Wi-Fi de l'hôtel à la merveilleuse Escarina. Maïté, comment ça va ?
Écoute, ça va très bien. Je suis avec mon petit café, avec toi. Tout va très bien. On va parler de jeu, donc c'est très chouette.
On se réveille ensemble. C'est le bonheur du podcast.
Même pour le boulot, je ne me lève pas aussitôt, Patrick.
Non, écoute, je suis honoré.
D'habitude, je me lève plus tôt.
D'habitude, on enregistre un petit peu plus tard, mais là, effectivement, pour accommoder mon emploi du temps particulier, tu as accepté de te lever. Alors, allez, attends, on va croire, déjà la semaine dernière, je disais que je faisais lever Chloé et Hugo un petit peu tôt. On a enregistré genre à 9h. Bon, là, il est 8h, mais je ne t'ai pas fait lever à 4h du matin non plus, Maïté.
Non, c'est tout à fait raisonnable. Et puis, c'est bien comme ça, ça lance ma journée. C'est parfait.
Très, très bien. Donc, on va vous parler du PC Gaming Show, du Guerrilla Showcase, du Futures Game Show, du Upload VR. Enfin, toutes les présentations qui aurait dû avoir lieu en marge un petit peu de l'E3 et dont on serait moqué un tout petit peu gentiment à ce moment-là. Et là, du coup, elles sont toutes ensemble. Bon, on va vous dire ce qu'on en pense dans une seconde. On va aussi vous parler de quelques retours sur la présentation de Sony, où on a eu quelques précisions et puis quelques autres petites news. Par exemple, les Pokémon qui vous aident à vous brosser les dents. Oui, c'est oui. Vrai, et c'est pas si mal. Et avant de se lancer, bien sûr, je voudrais remercier les gens qui soutiennent l'émission. Je voudrais remercier Vincent Di Natale, Gaëtan Front, Kerova, qui, avec lui, on remercie toute la Suisse, Osiris, Xavier Scolar, Pascal Germain, Loïc Bellost, Olivier Collomb, Le Bibou et Xavier Sureau. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Jeu sur patreon.com/rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, pour ce Rendez-vous Jeu, peut-être un petit peu plus court que d'habitude, on avait quand même 100-150 jeux présentés sur ces trois conférences ou showcases.
Au moins.
Disons que le PC Gaming Show n'est pas une énorme conférence, mais elle a la légitimité d'être la quatrième édition, je crois. Les autres, c'est vraiment des indés qui font ça presque dans leur chambre, on a l'impression. Le PC Gaming Show, alors, ce n'est pas un énorme show, c'est quand même PC Gamer, si je ne m'abuse, qui est un magazine qui n'a pas des moyens de fou, qui le met en place. Mais malgré tout, en fait, à chaque fois, chaque édition du PC Gaming Show, on se dit, c'était acceptable, c'était pas trop mal pour une première fois. Sauf que bout de la quatrième fois, tu commences à dire, à un moment, ça va devenir un petit peu plus rythmé, un petit peu. Je comprends pas en fait pourquoi à chaque fois, malgré toute la bonne volonté de Day9, Sean Plott, qui est bien sympathique, ils mettent des dizaines de jeux et au final, la présentation est alourdie. Enfin, moi, ça m'a pas plu, quoi. Maïté, on en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement. C'était pas réussi, selon toi, non plus.
Le format est hyper vieillot. Tu sais, le côté interview de développeurs, Enfin, je sais pas, moi je viens pas pouvoir ça en fait. Le truc, c'est que vu qu'ils enchaînent plein de vidéos, tu t'attends un petit peu comme pour les autres conférences, notamment chez les consoliers, entre guillemets, à avoir de l'enchaînement de waouh. Et là, en fait, le rythme est complètement cassé parce que c'est alterné avec des présentations un peu maladroites. Alors, je sais pas qui c'est l'homme et la femme qui présentaient ça, mais.
Alors, le présentateur, c'est Sean Plott, c'est Day 9. La femme, lui, je le connais parce que c'est un caster, mais elle était là déjà les fois précédentes. J'avoue que je n'ai pas retenu son nom. Mais oui, ils sont un peu. Ça fait artificiel, quoi.
Et tu te retrouves avec des vidéos qui font parfois entre 5 et 10 minutes avec des interventions de développeurs qui savent pas forcément. Enfin, tu sais, c'est toujours le problème quand tu interviews certaines personnes dans une boîte d'édition de jeux vidéo, c'est qu'il y en a certains qui savent très bien s'exprimer en public et d'autres c'est un peu plus hésitant. Et du coup, ça donne un côté un peu amateur à la présentation globale et ça casse un peu le rythme, quoi. Donc, bon, c'est particulier.
Il y a de ça d'une part, et je crois qu'il y a aussi le fait que, mine de rien, les présentations de développeurs qui montrent un petit peu qui détaillent les fonctionnalités des jeux, quand elles durent plus de 2-3 minutes, elles sont intéressantes si tu t'intéresses au jeu. Mais si c'est un jeu qui ne t'intéresse pas plus que ça, et bien tout de suite, ça devient laborieux. Et du coup, comme il y a énormément de jeux qui sont un petit peu plus niches, parce que les gros gros jeux qui intéressent tout le monde, généralement, c'est des trucs à plus gros budget et donc ils vont chez les plus grosses présentations, que ce soit les présentations des consoliers ou des gros éditeurs, etc. Donc là, il reste que des jeux de niche, ou plus ou moins de niche. Et du coup, un détail que fait le développeur des fonctionnalités, bah, ça intéresse qu'une niche. Et du coup, à moins que tu sois dans toutes les niches qui sont présentées, qui sont représentées dans la présentation, bah, ça devient laborieux, comme je l'ai dit 12 fois, quoi.
Et c'est ça qui rend aussi ces shows-là autour du PC très à la fois très awkward et très intéressant. C'est tous les jeux niche que tu peux avoir. Mais moi, j'ai vu des trucs, mais j'ai halluciné. Genre, il y a un dating sim pour vieux. Tu vois, c'est. Je sais pas si tu l'as vu, c'était dans le Guérilla Collectif, je sais plus comment ce jeu s'appelle. Et c'est voilà, un dating sim pour les personnes âgées. Tu te dis, mais
Tu veux
c'est que
dire
des trucs.
qui est conçu pour les personnes âgées ou qui met en scène des personnes âgées?
Alors, il met en scène des personnes âgées. Après, je pense que ça s'adresse à tout le monde parce qu'il faut être le plus inclusif possible. Mais je t'avouerai que ça s'appelle Later Daters. Et quand je suis tombée là-dessus, c'est pas le pire. Hein. Il y a une parodie de Death Stranding. Enfin, il y a des trucs complètement hallucinants. Il y a un côté un peu freak show, je trouve, sur ces présentations. Des fois, t'es un peu entre le malaise, entre le poilà là là, on dirait un jeu des années 2000, et entre le ah, tiens, ça a l'air pas mal. Malheureusement, pour moi en tout cas, le ah tiens, ça a l'air pas mal, c'est pas arrivé très souvent sur la centaine de jeux présentés, quoi.
Eh bien, écoute, justement, arrêtons de taper sur ces pauvres producteurs qui essayent de faire un truc sympa à l'heure de l'Internet, avec nous, avec une qualité de son qui laisse à désirer. Donc, on n'est peut-être pas les mieux placés pour en parler aujourd'hui. Mais parlons plutôt justement des jeux qui nous ont peut-être un petit peu plus plu ou un petit peu marqué. Justement, je te laisse peut-être la parole. J'ai mentionné PC Gaming Show, Guerrilla Collective, Future Games Show, et il y avait aussi Upload VR, qui pour le coup était plus réussi, j'ai trouvé, que l'année dernière, sachant que Upload VR, là encore, c'est un site web qui essaye de profiter de l'ambiance de l'E3 pour mettre en avant ses jeux et offrir une présentation dédiée aux jeux de réalité virtuelle. Ça fait quand même beaucoup de choses présentées. Est-ce que tu as, s'il y a un ou deux trucs que tu dois retenir de tout ça?
Oui, alors j'ai retenu quelques jeux. Alors sur le PC Game Show, j'ai vu un petit jeu qui s'appelle Carto, où en gros tu dois faire, c'est un genre de puzzle game où tu dois faire de la cartographie tout mignon en 2D. J'ai vu The Last Campfire qui fait pas mal penser à Firewatch, qui a l'air d'être un walking simulator dans une ambiance un petit peu, voilà, tu vois. Ah non, 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 attends, je me trompe. The Last Campfire, ça n'a rien à voir. Je confonds avec un autre. C'est un petit jeu où tu joues un espèce de lutin qui va réveiller des morts avec un look un peu kawaii. Voilà, ça a l'air mignon. Après, en un peu plus costaud en termes de moyens, il y avait Godfall. Alors, je l'ai noté avec un point d'interrogation parce que ce sera peut-être une grosse daube, mais ça avait l'air d'être un RPG à l'occidental, un peu classique, assez chouette visuellement, a priori, de ce qu'ils ont montré.
Godfall, c'est le jeu qu'on avait vu déjà pour au Game Awards et puis à la présentation de Sony, je crois, qui est ce qu'ils définissent comme un slasher-looter, qui
C'est
est
ça.
effectivement bon, à voir quoi. Ça peut être bien et ça peut être complètement oubliable.
C'est ça. Bah, tu vois, il m'était complètement passé à côté sur les deux autres présentations. Et là, là, en le voyant, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais enfin, parce que j'étais dans une humeur à me dire, c'est quand même dommage, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Et je me disais, bon, celui-là, peut-être à la limite, il n'a pas l'air si pire. Après, j'ai vu Kena aussi, qui est, je pense, c'est un des jeux dont les gens ont le plus parlé après ces présentations, qui a un côté un petit peu Pixar dans le visuel. C'est une petite fille qui est avec des petites boules noires tout autour d'elle, des petits monstres noirs, un petit peu comme dans Totoro, tu sais, c'est les Noiraudes.
Les Makurokuro, oui, les
C'est
Noiraudes.
ça. Et il y
Mais
a donc ce jeu.
c'est un jeu qu'on a vu aussi dans la présentation PlayStation, c'est Kena Bridge of Spirits, hein, qui était assez marquant.
Ouais, et bon, pour le coup, je pense que celui-là, effectivement, il ressort complètement du lot, mais c'était pas forcément une exclusivité, comme la plupart des choses qui ont été présentées. De toute façon, je pense qu'il y avait peut-être la moitié d'exclusivité sur la totalité des vidéos, et les autres choses, c'était pas mal de choses qui avaient déjà été présentées à droite à gauche.
C'est intéressant de voir du coup que Kena, qui avait été marquant dans la présentation Sony, n'est pas du tout une exclusivité PlayStation pour le coup.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça aurait pu. Je ne sais pas s'ils avaient dit que ce serait sur PC, j'imagine que non dans leur présentation.
La présentation Sony, il mentionnait pas. Il est possible qu'il le considère comme une exclusivité console Sony et donc qu'il serait pas sur Xbox, mais même ça, on n'est pas certain. C'était très flou dans la présentation de la PlayStation 5.
Après, un autre jeu que j'ai trouvé assez chouette et qui là pour le coup était une exclusivité, c'est Dustborn. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est un jeu qui ressemble à. Visuellement, on dirait un jeu Telltale, on dirait un petit peu. Tu vois, les graphismes en cel-shaded. Et alors, a priori, tu joues un groupe de personnages, et c'est un peu comme dans une bande dessinée, et ils ont des revendications politiques. Et tu dois aller en gros c'est un jeu qui se base sur le dialogue, si j'ai bien compris. Alors, ce n'était pas forcément hyper clair. Tu dois aller répandre des idées politiques, manipuler les gens avec tes mots, entre guillemets. Et ça a l'air sympa, c'est dans un monde un peu futuriste avec des robots. Enfin voilà, j'ai trouvé que visuellement c'était chouette, la présentation du jeu faisait envie. C'est peut-être un des jeux que j'ai le plus retenu, Dustborn, à voir ce que ça va donner. Donc plutôt un jeu narratif.
D'accord.
Et puis. Dans la présentation du Guérilla Collective, alors là, je pense qu'il y avait vraiment à boire et à manger, parce qu'il y avait vraiment de tout. C'était peut-être, je pense que les plus petits indés, ils étaient dans cette présentation-là. Et alors, en vrac, j'ai retenu Rocky. Donc, pareil, c'est un petit jeu. Alors, ça m'a fait un peu penser à Kena dans le style. Donc, c'est ROKI, hein, c'est pas comme
Pas comme
Sylvester
le
Stallone.
boxeur, ok.
Exactement. Donc c'est un petit jeu. Enfin, je dis ça m'a fait penser à Kena au niveau de l'ambiance un peu nature, etc. Mais sinon, ça n'a rien à voir. C'est un petit garçon qui ou une petite fille. D'ailleurs, on ne sait pas trop. Peu importe. Il balade dans une forêt enneigée et qui doit combattre des monstres. Ça a l'air mignon. Ça a l'air sympa comme tout. Après, j'ai vu Gestalt. Alors ça, je pense que je n'y jouerai pas, mais j'ai adoré la DA. Un peu pixel art avec une guerrière un petit peu à la Van Helsing. Ça avait l'air assez chouette. Voilà, après, je ne sais pas trop ce que ça va donner au
Gestalt,
niveau du.
c'est une sorte de, c'est du 16 bits, on va dire,
Ouais.
c'est un platformer, j'ai l'impression.
Ouais, on dirait un genre de Castlevania. Enfin, je ne sais pas, c'est pas très. Voilà, je pense que j'y jouerai pas, mais c'est très dans.
On est quand même réduit aux miettes, hein, et je suis sûr que il y a plein de gens qui vont dire: ah mais t'es fou, tel truc, ça avait l'air super cool, tel machin, c'est exactement pour moi. Mais oui, il y a des trucs qui sont exactement pour certaines personnes, mais Clairement, dans le jeu indé et souvent de niche, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, je me suis reconnue dans très peu de jeux. Là, tu vois, par exemple, j'avais noté aussi No Place for Bravery, qui est pareil, un jeu 2D en vue iso. Je ne sais plus si c'est du boss rush ou enfin, bref, j'y jouerai certainement pas, mais ça avait l'air très chouette. Il y avait Haven, dont on parle depuis un moment déjà, qui joue un couple sur une planète. Le gameplay a l'air intéressant parce que c'est pas forcément des choses que tu vois souvent. Et j'en avais noté un dernier qui a déjà
Je me
été
souviens plus
présenté,
qui est
pareil.
le développeur de Heaven. Heaven, c'est ah, je me souviens plus. Mais
Je vais te dire ça tout de suite.
parce que je me souviens
C'est
que le
Game
premier
Bakers.
Game Bakers et leur premier jeu, c'était
Fury.
voilà, exactement. Et c'est pour ça que ça m'a marqué parce qu'effectivement, Fury est un boss rush très très sympa, ouais.
Exactement. Et là, ça a l'air un peu différent. Alors, ils sont sur une planète
Ouais.
qui a l'air un peu contaminée par un truc bizarre. A priori, il y a un message écologique. En tout cas, visuellement, c'est vraiment chouette. Et le dernier que j'avais noté, c'était Call of the Sea, mais pareil, lui, il a déjà été annoncé dans d'autres conférences, donc c'était pas une surprise de le voir là. Donc tu sais, tu joues, c'est un jeu un peu façon années 30 où tu joues une nana qui débarque sur une île déserte, et ça a l'air d'être un jeu d'exploration, un puzzle game. Moi, ça m'a fait penser à Sea of Thieves quand je l'ai vu au niveau des
Ouais,
graphismes.
c'est
Au
ça.
niveau du gameplay, ça n'a rien à voir. Donc voilà, tu vois, dans tout ce que je te cite, au final, il y en a la moitié qui avait déjà été annoncée ailleurs. Et voilà. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté, mais enfin, beaucoup de Doom-like, de jeux d'horreur, où je me suis dit, de toute façon, ça, j'y jouerai pas. Et des choses, et des propositions vraiment très surprenantes et farfelues. C'est assez bizarre, quoi.
Écoute, l'industrie du jeu vidéo, je pense qu'on peut dire qu'elle, c'est impensif, mais elle ne s'est jamais aussi bien portée. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de production, il y a énormément de choses. Et je sais qu'il est de bon ton de dire, ah oui, mais tu sais, les petits indés, ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas, machin. Bah, je sais pas, mais il y a tellement de production qu'on nage dans les nouveaux jeux. Et le pire, c'est que les jeux dont tu parles, il y a 4 ou 5 ans, il y en a une bonne quantité qui, par leur originalité artistique, par leur design intéressant, par leur gameplay innovant, eh ben, ils seraient remontés sur le haut du panier, le devant de la scène. Alors que là, il y a tellement de choses et tellement de bonnes choses que même des trucs, tu vois, il y a genre trois jeux, tu disais, ah ouais, ça a l'air super cool, mais j'y jouerai pas. Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'autres choses qui sont encore plus cool qu'on n'aura pas le temps. Donc, je
Mais
pense
au
que
moins, ça
c'est.
leur donne un peu d'exposition, quoi, c'est ce que je
Bien
me dis.
sûr. Non, et puis surtout, tu sais, je disais, il est de bon ton de dire, les indés s'en sortent pas. Alors évidemment, la vie d'un développeur indé, c'est comme la vie d'un artiste indépendant, c'est moins facile que quand tu as un salaire qui tombe tous les mois garanti, évidemment. Mais la profusion de production, pour moi, veut dire qu'il y a quand même de plus de joueurs, tu vois, et plus de monde pour faire en sorte qu'il y a tellement de joueurs que t'es pas obligé de vendre 1 million d'exemplaires de ton jeu. Si tu trouves une petite niche justement de joueurs qui est intéressée parmi l'immense océan des millions et des centaines de millions de joueurs qui existent, eh ben tu peux peut-être faire ta petite production et t'en sortir. Pardon?
Après, oui, je dis, ça peut complètement suffire. Si sur les millions de joueurs qui regardent, ils en glanent une niche de ne serait-ce que 20 000 ou 50 000, potentiellement, ça peut suffire à rentabiliser leur jeu, quoi. Donc,
Pour certains d'entre eux, ouais.
après, c'est vrai que l'autre chose, c'est que vu que cette année, il n'y a pas d'E3, peut-être qu'on prend plus le temps de regarder ces conférences-là auxquelles on ne se serait pas intéressé habituellement, ou qui auraient déjà été filtrées par les médias spécialisés. Là, aujourd'hui, on les regarde parce qu'entre guillemets, bah, on a que ça à se mettre sous la dent. Donc du coup, j'ai l'impression que, enfin, moi, autour de moi, j'ai jamais vu autant de gens regarder ces conférences-là, alors que habituellement, c'est surtout les grosses conférences des consoliers, puis celles des PC, ça passe un peu à la trappe. Mais typiquement, la conférence du Guerilla Collective, je pense qu'en temps normal, si l'E3 avait eu lieu, il n'y aurait pas autant de gens qui se seraient penchés dessus. Donc, du coup, forcément, on voit des productions qui existent, qui sont déjà là habituellement, mais qui ont moins d'exposition ou auxquelles on s'intéresse moins pour toutes les raisons qu'on sait. Du coup, c'est marrant parce que ça permet de voir un éventail un peu plus large de ce que propose le jeu vidéo. Et il y a des choses, enfin, tu vois, j'ai vu des simulateurs de vignerons, un jeu de skate où tu joues un oiseau sur un skate, enfin, des trucs
C'est
complètement fantastiques.
Skateboard, non?
Ça doit
Skateboard.
être ça. Ça porterait bien son nom, en tout cas.
Bah écoute, de mon côté, moi j'ai retenu Ghost Runner, qui est une sorte de jeu à la première personne où on saute et c'est un petit peu Warframe, mais à la première personne. Ça a l'air assez impressionnant.
Ouais, le trailer m'a donné mal à la tête, j'ai pas préféré. Mais c'est vrai que t'en prends vraiment plein la figure, ça c'est clair.
Ouais. Les coups de sabre et on virevolte partout à la première personne, ça fait bizarre. The Eternal Cylinder, c'est un jeu de survie, gestion, où on est un personnage un petit peu alien, mais qui doit faire face en fait au cylindre éternel, qui est une sorte d'immense tube qui roule sur la planète et qu'on ne peut jamais arrêter. On imagine, ou peut-être qu'il y a un moyen pour gagner au final, mais et donc il faut survivre et je sais pas, éviter le cylindre éternel ou enfin c'est un des trucs un des bizarres mais marrant.
Oui, tu dois faire évoluer tes créatures, c'est ça m'a fait un peu penser à
Voilà,
sport en fait.
exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Et quoi d'autre? Il y a 13, il y a un remake de 13, c'est marrant parce que quand on regarde le tout premier, c'était le premier jeu. Cel-shaded en fait, qui ressemblait à de la BD, qui est basée sur la BD évidemment, donc c'était approprié. Donc là, il est en train d'être remaké. Le premier était sorti en 2003, il était très impressionnant à l'époque. Un petit peu moins aujourd'hui, c'est marrant parce que le remake est, comme souvent dans ces cas-là, il ressemble à ce dont on se souvient de l'original et pas vraiment à l'original qui, lui, est beaucoup plus moche, bien sûr. Mais bon, ça m'a marqué. Torchlight 3 qui est dispo en Early Access
Il
et
paraît que c'est une
sur le
catastrophe, hein.
ouais ce que tous les retours que j'ai entendus c'est malheureusement c'est pas du tout au niveau c'est j'ai même entendu le terme d'arnaque et pour qu'un jeu en Early Access soit considéré comme une arnaque c'est un
Et
peu
c'est Nodus qui a dit ça sur Gamekult en disant que en l'état actuel, c'était une escroquerie. C'est
voilà
dur, hein. Mais s'il le dit,
Et
je pense.
pour un jeu en early access, et Nodus, il a l'habitude des jeux en early access, donc
Et déjà,
bon.
moi, c'est ce que j'aime beaucoup Torchlight parce qu'il y a une partie de l'ancien staff de Diablo qui avait bossé dessus. Il y a notamment, il me semble que c'est Mathieu Helmen qui a fait la musique. Donc, on se retrouve vraiment dans l'ambiance Diablo. Mais déjà, le 2 m'avait déçu par rapport au 1. Alors là, je me dis, si le 3 est pire, la vache, quoi.
Bah, surtout que le 3 a une histoire mouvementée, en fait. Il a été conçu à la base comme un jeu à service en ligne, et puis il a été reconverti. Il y a eu des problèmes avec la société qui a eu des soucis. Enfin, bon, c'est compliqué une histoire compliquée, quoi. Donc, c'est pas, peut-être pas si surprenant, mais bon, c'est un early access. Peut-être qu'ils vont réussir à retourner le truc avant la sortie. Et puis,
Ils
un
vont pas avoir...
autre. Pardon?
Ils vont pas avoir le choix parce que sinon ça va pas bien se passer, je pense.
C'est vrai. Et un autre truc aussi que je voulais mentionner, c'est un jeu qui est déjà dispo en Early Access, que je vais peut-être tester à un moment, c'est Spellbreak, qui est un Battle Royale à 50, je crois, mais avec des sorts. Et au lieu d'avoir des armes, on a des sorts et des capacités spéciales. Et ça a l'air hyper intéressant, la manière dont les capacités spéciales sont utilisées. Enfin, franchement, le Battle Royale, c'est devenu un petit peu difficile d'innover dans le genre, mais à la limite, j'aurais presque envie de voir ce que donne le jeu, bien sûr en Battle Royale, mais aussi en jeu normal, tellement les sorts ont l'air intéressants. Donc, je vais
Ouais.
aller peut-être regarder ça.
Au niveau de l'univers, ça fait un peu penser à Avatar, le maître de l'air, tu
Ouais.
sais.
Ah, mais oui, exactement. Tu sais, c'est à ça que je pensais sans le savoir. Je suis un grand, grand fan d'Avatar. Et c'est vrai que la manière dont il manipule les éléments, ça fait un peu penser à ça. Ouais. Écoute, Avatar, le Battle Royale, why not? Moi, je vais regarder ça. Et puis juste un mot sur la réalité virtuelle pour dire, bon, d'une part, Pistol Whip, qui est visiblement très bon, sera disponible fin juillet sur PlayStation VR. Donc c'est un petit peu Beat Saber, mais on a des pistolets et on tire sur les trucs en rythme au lieu de les frapper avec les sabres. Donc déjà, le concept est séduisant. Et puis, à part ça, je dirais que malheureusement, la réalité virtuelle continue à être la réalité virtuelle. J'ai eu des termes un petit peu durs pour la VR ces derniers temps, à part Iron Man VR, il y a 2 semaines, qui m'avait plu, mais qui m'avait plu pour une demi-heure. Et donc, j'ai eu des termes un petit peu durs, et malheureusement, le Upload VR Showcase ne m'a pas vraiment fait changer d'avis. La VR fait un peu du surplace, quoi. Si ça vous plaisait à l'époque, eh ben, ça va continuer à vous plaire, peut-être, il y aura des trucs intéressants. Mais je n'ai pas l'impression que ça fait quoi, 4 ans maintenant qu'elle est disponible à grande échelle, et je n'ai pas l'impression que ça évolue vers le truc dont on se disait « Ah ben, à un moment, ça va devenir vraiment grand public. On va peut-être y arriver un jour, mais là, on n'y est pas encore. »
Oui, je pense qu'effectivement, les propositions de jeu font rarement rêver. Il y a eu le cas de Half-Life Alyx dernièrement qui a relevé un peu le niveau de tout ça, mais c'est vrai qu'au final, moi, quand je regarde les propositions, j'ai l'impression de pourvoir la même chose, quoi. À voir comment ça va bouger.
Ouais, bon. Il y a des trucs originaux, hein. Il y a un jeu de régulation de trafic routier avec lequel tu peux participer aussi quand tu es sur mobile et ce genre de trucs. Enfin, il y a des trucs un petit peu différents, mais... Je ne sais pas, rien qui saute aux yeux comme un truc vraiment intéressant, quoi.
Ça te donne envie de passer le pas et d'acheter le matériel pour ceux qui...
Ouais. Bon, donc voilà sur ces présentations un petit peu peut-être décevantes, je dirais. Mais bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront trouvé leur compte aussi. N'hésitez pas à aller regarder les 2 heures de présentation du PC Gaming Show, par exemple, si vous avez besoin de dormir un petit peu.
t'avais parlé de West of Dead aussi, peut-être qu'il faisait partie des gros jeux, parce qu'il y avait Ron Perlman qui fait la voix du personnage, et graphiquement, ça sortait un petit peu du lot. C'est un jeu vu du dessus où tu joues un pistolero avec une tête de squelette. Ça a l'air d'être un genre de... Voilà, un petit jeu de gunfight vu du dessus. Et pareil, celui-là, il sortait un petit peu du lot, mais...
Ouais, on en a entendu parler depuis un moment de West of Dead, donc là non plus, c'était pas un truc qu'on avait jamais vu. Mais oui, bah, effectivement. Vois,
là, pareil, je me dirais qu'au moins le mérite de ces conférences-là, c'est que j'en avais jamais entendu parler avant de le voir là. Je me dis, au moins, ça m'a permis de le voir. Malheureusement, bon, c'était pas une excuse.
Bah écoute, c'est déjà ça, donc on va un petit peu avancer, et avant ça, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister, les gens qui vont sur patreon.com/rdvjeux, qui nous permettent de vous faire nos petits rapports, bon, bimensuels parfois, un petit peu plus quand il y a l'occasion, sur tout ce qui se passe dans l'actu du jeu vidéo, pour que vous n'ayez pas, vous, à vous tapez toutes ces présentations et tous les articles. On lit tout ça pour vous, on le décortique, on l'analyse, et j'espère qu'on vous le propose dans un format qui vous plaît, qui vous distrait, qui vous fait passer un bon moment dans les transports ou pendant que vous faites le ménage. Si c'est le cas, je vous invite à, et que vous écoutez depuis quelque temps, hein, que le rendez-vous jeu est un rendez-vous que vous recevez avec plaisir sur votre téléphone mobile, sur votre app de podcast, eh ben je vous encourage à vous dire peut-être que je pourrais le soutenir. Et du coup, vous allez sur patreon.com/rdvjeux et vous pouvez non seulement avoir le plaisir de soutenir l'émission pour une somme que vous choisissez, qui peut être modique, hein, ça, vous pouvez donner $1 par épisode, même pas le prix d'un café. Mais en plus, vous avez des petits bonus qui vous sont proposés. Le premier étant la possibilité d'avoir les émissions sans pub et sans ces parties promo au milieu. Et il y a d'autres bonus aussi, donc c'est vraiment gagnant, fierté, soutien, bonus. Moi, je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, patreon.com/rdvjeux, ça prend 2 minutes. Vous gardez toujours le contrôle, vous vous arrêtez quand vous voulez et le lien est dans les notes de l'émission.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Faisons un petit rappel en parlant de grosses présentations par rapport à la présentation Sony. On a eu un petit peu plus de précision. D'abord, la confusion sur Spider-Man Miles Morales qui a suivi la présentation. Certaines sources disaient qu'en fait, c'était qu'une extension du jeu, qu'il y avait une version du jeu remasterisée et étendue pour la PlayStation 5. D'autres disaient non, c'est un jeu indépendant. Enfin bref, au final, le dernier mot qu'on a, c'est que c'est un jeu autonome à la sauce de Lost Legacy ou First Light, exactement comme on en parlait dans l'émission avec Chloé et Hugo la semaine dernière. Et c'est marrant parce que quand on a fini d'enregistrer, les premières rumeurs sur le fait que ça ne serait pas une extension vendue indépendamment sont tombées. Et donc, dans notre Discord où on était en train de discuter, Hugo est venu en disant « Ah merde, on a des news, en fait on s'est trompé !» Et puis quelques heures plus tard, on disait « Ah non, en fait c'est à peu près ça !» Et ça a duré 2-3 jours. Au final, on ne comprend plus rien, mais moi, je crois que la conclusion, c'est que c'est effectivement un jeu indépendant et que Spider-Man, le jeu de la PS4, va ressortir en version améliorée pour la PS5 et qu'ils vont communiquer à ce propos, en plus de Spider-Man Miles Morales, mais qu'ils ne sont pas encore prêts à le faire maintenant. Je crois que c'est de là que vient la confusion. À côté de ça, il y a les premières analyses sur les jeux PlayStation 5 sur la présentation qui semblent dire que le 4K 60 FPS, c'est pas forcément gagné du tout. Et c'est marrant parce que certains se disaient « Ah enfin, avec la puissance qu'on va avoir, on va pouvoir faire du 60 FPS. » Et d'une part, le 4K 60 FPS demande une puissance monumental, qui n'est pas du tout garanti que les nouvelles consoles elles-mêmes y arrivent, et d'autre part, surtout au début quand elles ne seront pas optimisées, mais même à terme, parce que, comme je le dis depuis toujours, ces questions de FPS, c'est des leviers, et quand on pousse un levier, on doit baisser les autres. Il y a la résolution, la complexité graphique, le nombre de FPS, et on peut ajouter à ça des trucs comme le ray tracing, etc. Et bien sûr, après, si le hardware a des composants spécialisés pour faire ce genre de choses, ça peut permettre de faciliter le poussage du levier, mais je ne crois pas qu'il soit possible parce que la puissance de ces différents éléments n'est jamais totalement indépendante, donc tu vas toujours te dire « Bon, si je repasse en 30 FPS, j'ai un peu plus de puissance pour afficher des trucs plus… pour faire plus de ray tracing ou plus de trucs, c'est des vases communicants, quoi ». Donc, moi, ça ne me surprend qu'à moitié, mais certains étaient très étonnés.
Alors, on sent que c'est un sujet qui tient à cœur de certains gamers qui ne veulent pas décrocher de ce fameux 4K 60 FPS.
C'est surtout le 60 FPS. Moi, je les appelle les ayatollahs du framerate. et je comprends, effectivement, à tout prendre, à de très, très rares exceptions près où l'intention artistique est d'avoir 30 FPS. Je dirais que généralement, oui, bien sûr, si je peux avoir la même chose en 30 ou en 60, ben, je vais prendre le 60. Mais c'est pas non plus... Si on sacrifie de la fidélité graphique, je crois que... En fait, il y a une certaine catégorie de la population, souvent sur PC, mais pas que, qui dit les FPS sont plus importants que tout. Et je comprends que pour certains, ça soit plus important que tout, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il est tout à fait légitime de se dire, bah, je préfère avoir un jeu qui est un petit peu plus beau en 30 FPS qu'un petit peu moins beau en 60. Et les ayatollahs ne comprennent pas. Les ayatollahs du framerate ne comprennent pas cet argument et sont très, très, très frustrés et énervés et font savoir leur frustration quand il y a des jeux qui tiennent pas les 60 FPS. Donc évidemment, dans le monde des consoles, ils sont pas très heureux, quoi. Et dernier détail, on a la confirmation a priori que Sony n'a pas de politique officielle pour la transition entre PlayStation 4 et PlayStation 5, à savoir les jeux que vous avez achetés sur PlayStation 4, s'il y a des versions PlayStation 5, ils travaillent avec les éditeurs pour assurer, pour ceux qui le souhaitent, la transition entre les deux générations et donc le fait de prendre ces jeux de l'ancienne génération à la nouvelle. Sachant que la politique de Sony est très différente de celle de Microsoft. Chez Microsoft, on est vraiment dans une optique d'unifier toutes les machines. Donc, il est important de proposer cette option le plus facilement possible. Chez Sony, c'est vraiment un truc de transition. Oui, il y a de la rétrocompatibilité, mais à terme, ça importera sans doute un petit peu moins, à vrai dire chez Microsoft aussi ça importera un petit peu moins, mais on sent que la politique n'est pas aussi poussée à ce niveau chez Sony, donc ça peut déplaire à certains.
Ils en ont dit un peu plus d'ailleurs sur la rétrocompatibilité Sony, parce que quand j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé de message très clair sur le sujet.
Ils sont encore en train de dire qu'ils travaillent aux milliers de jeux PlayStation 4 pour les rendre compatibles, mais il n'y a pas de compatibilité il n'y a pas une couverture générale de compatibilité, si tu veux. À ce stade,
Ouais, c'est pas hardware, en fait. C'est pas genre tu mets ton jeu PS4 dans la console, ça va marcher. C'est plus un modèle à la Xbox où éventuellement tu pourrais retélécharger ton jeu.
Alors, c'est disons que dans le cadre de la Xbox aussi, il faut qu'ils adaptent plus ou moins les jeux pour la génération précédente, qu'ils s'assurent qu'ils fonctionnent bien, parce que même s'il y a une sorte de compatibilité hardware, tout n'est pas exactement pile pareil, donc il faut s'assurer que tout fonctionne. Mais ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué du côté de chez Sony que du côté de chez Microsoft, ou alors Microsoft a mis plus de ressources là-dedans, parce que Sony, effectivement, est un petit peu vague encore. On comprend qu'ils veulent en faire autant que possible et on imagine qu'il y aura une bonne quantité de jeux qui seront rétrocompatibles. Mais je crois qu'à ce stade, ils attendent de pouvoir dire « on a 2000 jeux, tu vois, rétrocompatibles et qu'ils ne sont pas encore à ce stade, ou peut-être qu'ils vont réserver cette communication plus tard. Ils ne veulent pas dire « on est en train d'y travailler ». Je crois qu'ils veulent dire on en a 2000 et on va continuer à en ajouter. Et là, ça sera plus impactant. En donnant une liste peut-être qui permettra de dire ok, bah, tous les jeux qui me sont importants, ils sont rétrocompatibles.
Oui, quand ça fait un peu sujet tabou comme ça, c'est en général pas très bon signe. Hein, mais on verra bien.
C'est sûr. L'une des possibilités que je vois, c'est que suite à la mauvaise communication pendant la conférence de Mark Cerny, où il disait on a 100 jeux, les 100 plus gros jeux. Les 100 jeux qui représentent le temps de jeu le plus important sur la PlayStation 4 sont rétrocompatibles. Ce qu'on a compris, c'est qu'il voulait dire aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont tous confirmés rétrocompatibles. Et beaucoup de gens l'ont pris comme il n'y aura que 100 jeux qui seront rétrocompatibles de la PlayStation 4 à la PlayStation 5, ou plutôt l'inverse.
Ouais.
Et du coup, je crois que pour éviter la confusion, ils se sont dit on va être confus sur l'histoire de Spider-Man Miles Morales. Donc, on va éviter d'être en plus confus sur la rétrocompatibilité. Et donc, on va attendre un peu d'avoir un message clair pour pouvoir communiquer dessus. Moi, je crois qu'on n'est plus sur cette optique, mais à voir.
C'est bon de voir, oui.
Un truc qui est également un petit peu confusant, pour faire un beau barbarisme, c'est les nouveaux Pokémon qui ont été annoncés il y a 2 jours de ça. Alors, d'une part, il y a un nouveau Pokémon Snap. Les fans de la version Nintendo 64 seront heureux. Mais surtout, il y a 2 jeux mobiles. Pokémon Café Mix, qui est un jeu où il faut faire des gâteaux et des petits plats pour les Pokémon qui viennent dans votre café. OK? Et en plus de ça, il y a Pokémon Smile, qui est, je crois, sur le concept, le truc le plus débile qui soit, et une fois qu'on y pense deux minutes, le truc le plus génial qui soit, en fait. C'est un jeu en réalité augmentée, qui est sur votre téléphone, donc, qui prend l'image de la personne qui est en face, qui peut mettre un petit chapeau de Pokémon sur sa tête, etc., et qui va vous encourager à vous brosser les dents pour aller chasser toutes les impuretés et sauver les Pokémon. Et une fois qu'ils sont, je crois que les Pokémon sont dans votre bouche ou un truc comme ça, et une fois que vous les avez, vous avez bien nettoyé les dents, et ben vous pouvez attraper les Pokémon et les collectionner. Et vraiment, je crois qu'en fait, c'est un truc qui est complètement débile, à moins qu'on ait des enfants.
Mais je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire avec cette licence, mais je t'avoue que...
Mais tu sais, c'est, je te jure, moi qui ai un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, qui n'a pas du tout envie de se brosser les dents, je peux te promettre, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est marrant parce que dans ce genre de situation, j'en ai déjà parlé par le passé, mais tu divises vraiment le monde entre deux catégories. T'as les gens qui n'ont pas d'enfants, qui te regardent et qui te disent « Mais de quoi tu me parles ?» Et les gens qui ont des enfants, qui te regardent et qui te disent « Ah, mais trop, quoi !» Oh. Et en l'occurrence...
Tu vas essayer cette technique avec ton fils ?
Pardon ?
Tu vas essayer avec ton fils le jeu quand il sortira ?
Bah écoute, il est encore un petit peu jeune, je crois. Il a que 2 ans et demi. Mais ce que je voulais te dire, c'est que chaque putain de soir, pour se brosser les dents, et le matin aussi, c'est un combat. Mais c'est les gens qui n'imaginent pas. C'est vraiment un combat. Tu fais... Mes ressources de persévérance que j'ai acquis dans le jeu vidéo me servent énormément parce que, putain, c'est never ending story, quoi. Et tu reprends un niveau à chaque fois que tu penses avoir gagné et il y a des nouveaux ennemis plus forts et il veut pas, et il court, et il se retourne et puis il gigote et puis... Alors, quel outil que ce soit qui me permet de mieux lui brosser les dents dans quelques temps, je suis preneur. Et en plus, et c'est là que c'est vraiment génial, on est là aussi dans un cadre gagnant-gagnant-gagnant, ça t'endoctrine les gamins à rentrer dans l'univers Pokémon, et du coup, après, Nintendo les a alpagués et ils sont complètement fans, quoi. C'est un outil d'acquisition de clients qui est formidable. Donc, pour moi, c'est complètement cohérent à tous les niveaux, ce truc. De là qu'au départ, quand j'en ai entendu parler, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé chez The Pokémon Company ? Au bout de 2 minutes, quand j'avais vu le truc, je me disais, mais en fait, c'est des génies, quoi. C'est juste des génies.
Donc c'est, en plus, ils endoctrinent les enfants par le biais des parents. C'est vraiment des génies du mal, quoi.
Mais c'est exactement ça. Ils te donnent un outil qui est, que tu trouves indispensable. Et donc, c'est toi-même qui vas l'imposer à tes enfants, quoi. Et tu deviens, ils te transforment en outil de leur marketing implacable. C'est magnifique, magnifique. Donc il y a ça, d'une part. L'autre grosse surprise, c'est Star Wars Squadrons, qui est en fait un TIE Fighter modernisé, où c'est un jeu de EA, qui sera d'ailleurs présenté ce soir dans la présentation d'EA, plus en détail. En fait, c'est du 5 contre 5 PVP en combats spatiaux de Star Wars. C'est-à-dire le pur fantasme de 90% des fans de Star Wars qui appelaient de leur vœu un retour de TIE Fighter depuis des années et qui se demandaient ce que foutait EA, et ben ils sont en train d'exaucer le vœu. Alors, à voir si ça sera bien ou pas, c'est une énorme question, mais en tout cas, c'est une promesse qui met des étoiles dans les yeux de très nombreux joueurs et joueuses, quoi.
Ouais, c'est clair. J'attends de voir ce que ça va donner avec impatience.
On est deux. Destiny 2, on a les détails sur la prochaine édition, enfin la prochaine extension qui s'appelle Beyond Light. Et ils ont aussi donné les détails sur les années à venir. Donc il y a 3 extensions à venir. Je suis toujours fan de Destiny 2, mais j'avoue que ça commence à nécessiter un petit peu plus d'efforts de ma part que par le passé. C'est toujours un mystère, Destiny 2. Ils ont un petit peu une année on, une année off. L'année dernière, c'était une année off. J'espère que... Là, je n'ai pas l'impression que c'est suffisamment ambitieux pour revenir vers une gloire de Destiny qu'on a connue une année sur l'autre depuis des années. Et là, ça devrait être une année on, j'ai pas l'impression qu'ils aient de quoi, mais qui sait ? C'est pas hyper ambitieux comme truc. Alors, il y a des nouvelles sous-classes, donc ça veut dire qu'il y a des vraies nouveautés de gameplay, il y a une nouvelle destination, et à chaque année, il y aura ce processus où il y aura des nouvelles destinations. Donc, il y a peut-être des nouveautés de gameplay intéressantes, je suis sûr que je vais acheter l'extension, mais je vais pas me jeter sur le Season Pass, par exemple. Alors que l'année dernière, je m'étais jeté dessus, parce que l'année d'avant, il était incroyable, et cette année, c'est celui que j'ai pris d'un coup ne m'a pas donné entière satisfaction. Donc, bon. Et puis, il y a toujours, j'avoue, cette histoire mystère qui n'avance jamais, qui est hyper frustrante. Et en plus de ça, la présentation faite par les deux développeurs, dont Luke Smith, quand on parlait d'amateurisme, on avait l'impression qu'il faisait une présentation pour la prochaine étape de Destiny 2 à tous les joueurs de Destiny 2, et on avait l'impression qu'il parlait à un thread sur Reddit, quoi. D'ailleurs, il s'est adressé directement aux gens sur Reddit à un moment, et enfin, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, quoi. Tu parles pas à un forum quand tu fais une présentation à tous tes joueurs. Moi, j'ai trouvé ça très maladroit.
Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça ne fait pas rêver.
Ouais, c'était... Enfin bon, bref, j'aime quand même toujours Destiny et j'espère, je vais y jouer quand il sortira. C'est le 22 septembre, je crois. Donc, ça laissera un petit peu de temps pour le tester avant les sorties des prochaines consoles. Un petit mot sur Dwarf Fortress, qui est un jeu... que les vrais connaissent, qui est un jeu en textuel et en graphisme très très basique, qui est développé en 3D. C'est un jeu qui existe depuis, je ne sais pas, peut-être 15 ans, presque 20 ans, qui a une communauté de fans énorme. Et généralement, c'était des graphismes, des graphismes en ASCII. Et là, ils font une mise à jour du jeu en graphisme qui est respectueuse de l'esprit du jeu d'origine, mais qui est des vrais graphismes. Je veux juste le mentionner pour faire un petit clin d'œil aux fans de Dwarf Fortress qu'il y a dans l'audience. Tu vois, on parlait de niche et de diversité du jeu vidéo dans les styles de jeu et les petites communautés. Quand je dis énorme, c'est pas tout à fait énorme, en fait. C'est une communauté qui est hyper connue et fidèle au jeu depuis 2003. Donc... Bref, si vous ne connaissez pas Dwarf Fortress, allez y jeter un coup d'œil. Pardon ?
Oui, c'est assez fou. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je t'avouerai que j'avais déjà entendu ce nom-là et puis je ne m'y étais pas plus intéressée que ça. Et je ne savais pas qu'il y avait une telle communauté derrière le jeu. C'est vrai que quand tu vois les premières images, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Et puis que tu vois qu'en fait, il y a toute une communauté qui est à fond. Ah, bah, y a peut-être quelque chose, en fait.
C'est ça, exactement. On a plus d'informations sur Paper Mario The Origami King. Le truc que je retiens de cette longue présentation, c'est le système de combat, le Ring Battle System, où on a en fait un système de combat hyper original, où on a des anneaux concentriques, et il faut faire pivoter les anneaux pour aligner les ennemis et pouvoir les détruire plus stratégiquement. J'étais pas du tout intéressé par Paper Mario and The Origami King, et là, rien que le système de combat, ça me fait, on va dire, lever un sourcil. C'est oui. Hyper original et c'est intéressant, je trouve.
Ouais, carrément. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Je suis comme toi, hein. Je pense pas que je jouerai à ce jeu-là. Et pour le coup, ils ont le mérite de proposer quelque chose de... Moi, je l'avais jamais vu ailleurs, en tout cas, cette mécanique de jeu, donc sympa.
Baldur's Gate 3, là encore, communauté de fans, pourrait arriver, dont tu fais partie pour le coup ?
Complètement.
Eh bien écoute, Early Access, possiblement en août. C'est marrant, dans leur trailer, ils montrent Early Access en août, maybe. Donc si tout se passe bien, l'Early Access arrive. Et puis Fortnite saison 3 a été lancée avec toujours beaucoup d'originalité de la part d'Epic. Ils ont inondé l'île et c'est basé sur. Prendre des taxis requins. Enfin, c'est tous les trucs basés sur les sports nautiques. Donc voilà, Fortnite continue. C'est pas si surprenant, mais c'est quand même notable. Quelques news de l'industrie et puis on va conclure. EA a amené 25 jeux sur Steam et va amener EA Access très bientôt sur Steam. EA Access, il est désormais disponible sur PC, sur leur client origine, sur Xbox, sur PlayStation et maintenant sur Steam. Oula, tais-toi Siri. Comment ça, I'm not sure what you mean. Et du coup, ils ont une politique un petit peu microsoftienne de « on est présent partout ». Alors, EA Access, c'est la version pas chère. Hein. C'est la version qui donne accès à leur back catalogue. Ce n'est pas EA Access premier qui, lui, n'est accessible que sur Origins et dont le fer de lance était Anthem l'année dernière, alors, ou il y a 2 ans déjà maintenant. Et donc, évidemment, ça n'a peut-être pas eu le succès qu'ils auraient espéré. Voilà. Mais EA Access est donc partout, j'ai trouvé ça intéressant.
Tu n'as pas vécu comme un constat d'échec cette annonce ? Eux, ils le mettent en avant comme « ouais, on va être plus inclusif, on va être sur toutes les plateformes ». Moi, je l'ai vécu comme « on n'arrive pas à vendre nos jeux sur notre plateforme, du coup, on les met sur Steam ».
Bah, je crois que d'une manière générale, oui, il y a une difficulté à la fois de EA et de Ubisoft à faire... remonter leur launcher. Steam est très compatible hein, avec les autres launchers. Un jeu Ubi, tu le lances par Steam, par le launcher Ubi. Donc, c'est un peu le bordel. Et voilà. Et donc, je pense que je ne serais pas surpris qu'EA fasse pareil. Donc, bon, il doit avoir un deal spécial. Oui, ce n'est pas la situation idéale pour EA. Je pense qu'ils auraient largement préféré que tout le monde se mette à acheter les trucs sur leur... sur leur launcher et qu'ils n'aient pas à payer quoi que ce soit à Valve. Mais je ne dirais pas non plus que c'est « bon, bah, on abandonne, rien n'a fonctionné, donc on fait ça ». C'est un moyen quand même pour eux d'être présents un petit peu partout. Donc, je crois qu'il y a une vraie stratégie derrière. Peut-être une stratégie de pivot, mais quand même une vraie stratégie. Warner Bros. Va peut-être être mis en vente par AT&T, la division jeu de Warner Bros., de Warner Brothers. C'est important parce que, d'ailleurs, ils vont sans doute être présents au festival Fandome le 22 août pour présenter des jeux. Et je disais, c'est important parce que ils ont vraiment des ambitions chez Warner Bros. Interactive Entertainment. Ils voulaient d'ailleurs faire une présentation à eux pour la première fois, cette E3, d'après les rumeurs qu'on a entendues. Et ils ont dû annuler, bien sûr, parce que l'E3 a été annulé, mais... il y a plein de jeux qui sont en préparation, le jeu de Rocksteady dont on ne sait pas grand chose, un nouveau Batman qui a été teasé, un nouveau Batman Arkham qui a été teasé 60 000 fois, d'autres trucs, donc c'est possiblement une acquisition intéressante et il y a bien sûr des gros éditeurs du jeu vidéo qui sont potentiellement, on parle en rumeur, hein, mais potentiellement sur les rangs. Et on pense bien sûr à, enfin, il pourrait y avoir Activision qui a une activité peut-être un petit peu réduite ces derniers temps. Electronic Arts également, Take-Two, enfin, il y aurait plein de candidats potentiels. Et ça serait un gros changement dans l'industrie si l'un d'entre eux acquiert Warner Bros. Games, quoi. Et enfin, il y a un nouveau bundle pour la justice raciale, le Humble Bundle for Fight for Racial Justice, où il y a énormément de jeux super cool. On vous parlait il y a quelque temps du bundle de itch.io. Et ben là, c'est le bundle de Humble Bundle et il y a genre 1 500 $ de jeux pour $30 ou €30. Et évidemment, c'est inratable, en plus de faire une bonne action. Moi, j'avais acheté le bundle de itch.io, je crois que j'avais €30 au lieu des 5 de base, mais à la limite, c'est même pas vraiment pour prendre les jeux, je laisse les clés là où elles sont et on verra plus tard, mais c'est quand même, là encore, c'est vraiment le thème de l'épisode, c'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est le genre de truc où on se dit, bah oui, on peut aller donner de l'argent à des associations qui vont défendre des causes auxquelles on croit. Évidemment, on peut toujours le faire. Mais là, en plus, on se dit, bon, bah, je vais prendre les jeux, comme ça, en plus, je les aurai, et je fais une bonne action. C'est une motivation supplémentaire. Ça lève des millions d'euros et de dollars dans le cadre de ces bundles. Et pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, je vous encourage à aller regarder du côté de Humble Bundle pour ce bundle assez incroyable. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour notre épisode de la semaine. Escarina, merci de t'être levée si tôt. Est-ce que tu peux me dire où je peux te retrouver, où on peut te retrouver sur Internet?
Alors, on peut me retrouver sur Twitter, Escarina _. On peut me retrouver aussi sur Kiss My Geek, donc, qui est mon site d'actualité, jeux vidéo, cinéma, séries, etc. Et puis, en dehors du rendez-vous jeu, je fais aussi des podcasts avec l'équipe de Super Gamerside sur un ton un peu plus, on va dire... Oui, voilà, paillard, c'est le très bon terme. Donc, là, on est toujours confiné pour l'instant, mais on espère bien reprendre très bientôt les enregistrements. Donc voilà, et puis avec toi tous les mois, Patrick.
Parfait, pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez voir comme je me suis réveillé à 4h du matin aujourd'hui avec l'orage et Thor qui... brandissait Mjolnir dans le Nord, vous pouvez voir sur Instagram, je suis NotPatrick. Vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr et nous y laisser des commentaires. Et bien sûr, soutenir sur patreon.com/rdvjeux. C'est le moment, l'émission se termine. Donc vous pouvez, sur votre mobile ou sur votre PC, aller sur le site. Le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission. Je vous fais deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans deux petites semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of ACAST Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.